In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built.
Discours très long sur l'état de l'Union du président américain Donald Trump devant les deux chambres hier. Raphaël Jacob.
Le troisième plus long de toute l'histoire américaine, 82 minutes, près d'une heure 30. Seul Bill Clinton, à deux reprises, avait dépassé Donald Trump au niveau de la longueur du discours sur l'état de l'Union. Au niveau du ton, au niveau de la forme, très présidentielle. C'est exactement ce à quoi je te disais que je m'attendais hier. C'est ça qu'on a eu. Et au niveau du fond, pas de réelle surprise, pas de grosses nouvelles, sauf peut-être une révélation nouvelle, celle à l'effet de quoi le deuxième sommet entre le président américain et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, jadis surnommé Little Rocket Man, aura lieu les 27 et 28 février prochains, donc dans à peine quelques semaines.
Au Vietnam.
Au Vietnam, c'est exact.
Alors ça, on a appris ça, on a appris qu'il tient au mur. Il a appelé évidemment à une bipartisanerie, c'est-à-dire essayer de dépolitiser l'embâcle. Il reste une chose, cependant, c'est qu'il ne reste que 9 jours pour que démocrates et républicains s'entendent si on ne veut pas revivre la fameuse fermeture du gouvernement.
Ou qu'on ne veut pas voir le président évoquer l'état d'urgence, parce que, comme on l'a entendu dans l'extrait à l'ouverture du segment, ça semble assez clair que Donald Trump a envoyé un message hier aux élus du Congrès à l'effet de quoi, s'il ne passe pas un compromis qui inclut du financement pour le mur, le président va tout simplement évoquer l'état d'urgence. Donc, évidemment, on s'en reparle d'ici la fin de la période de négociation qui est prévue pour vendredi prochain.
Alors, depuis plus d'une semaine, si vous écoutez les chroniques de Raphaël, il y a une nouvelle saga politique. Elle n'est pas à Washington, mais dans l'État voisin de la Virginie. Nouvelle journée, nouveau développement explosif dans la crise politique qui se déroule dans l'État de la Virginie.
Rappelons les faits. Le gouverneur de l'État, qui est dans la controverse, les deux pieds dans la controverse à cause de deux scandales différents depuis une semaine. Le premier, ses propos sur son ouverture là, apparente à mettre fin à la vie de bébés, en fait de nouveau-nés souffrant de déformations une fois qu'ils sont nés, et des comportements jugés racistes dans sa jeunesse. Le gouverneur en question, qui s'accroche toujours une semaine après le début de cette crise politique. Le lieutenant-gouverneur, donc le numéro 2 de l'État, l'homme qui prendrait les rênes de l'État si le gouverneur quittait ses fonctions, est maintenant accusé par une professeure, la docteure Vanessa Tyson, de l'avoir forcé, et il va falloir que je le dise comme c'est présenté, à lui faire une fellation dans une chambre d'hôtel lors de la Convention nationale démocrate en 2004. Une scène, là, franchement horrible, qui est décrite avec beaucoup de détails dans une déclaration d'un peu plus de 2 pages diffusée cet après-midi par la firme d'avocats La Représentant. La même firme, comme je te le disais hier, Paul, qui avait représenté Christine Blasey Ford, la professeure qui, elle, avait accusé Brett Kavanaugh, le juge nommé par Donald Trump à la Cour suprême, d'inconduite sexuelle. Et comme c'était passé, NBC News a rapporté un peu plus tôt aujourd'hui que le lieutenant-gouverneur, donc le lieutenant-gouverneur de la Virginie, aurait fait référence hier à huis clos à la femme l'accusant en disant, et là aussi tu me pardonneras de citer mot pour mot, « Fuck that bitch ».
Alors voilà qui vole très haut. Mais là, aujourd'hui, nouveau développement, le numéro 3 dans ce qu'on pourrait appeler une hiérarchie diabolique,
oui,
démocrate en Virginie, fait son apparition,
exact,
aujourd'hui.
Parce que tu me demandais un peu plus tôt cette semaine, Paul, qu'est-ce qui arrive si à la fois le gouverneur et le lieutenant-gouverneur quittent? La réponse, c'est que c'est le procureur général, ce qu'on appelle le Attorney General.
Un peu comme le ministre de la Justice.
Exactement comme le ministre de la Justice, qui prendrait les rênes de l'État.
Et alors,
le type en question déclare aujourd'hui publiquement qu'en 1980, lors d'un rassemblement d'une fête d'amis, il se serait peinturé le visage en noir, lui aussi, comme le gouverneur actuel, pour personnifier un afro-américain.
Lors d'une danse hommage à Michael Jackson?
Non, peut-être. Au moins, c'est pas ça. Mais là, t'as les trois, là. Ce sont les trois élus les plus importants, un après l'autre, qui, sont carrément coincé dans une crise politique qui n'en finit plus. S'il y en a qui se posent la question, c'est qui le quatrième dans la ligne de succession?
Virginie.
Je vais te le dire, c'est le président de la Chambre des délégués de la Virginie. Oh. Et lui, c'est un républicain. Donc, tu as 3 démocrates qui sont coincés présentement. Si les 3 devaient sauter... Là,
attendez, la semaine prochaine, ça va être le président de la Chambre de commerce.
La semaine d'après, ça va être toi, puis après ça,
bon,
ça va être moi.
Ça va très mal pour les démocrates partout, d'ailleurs, parce que la sénatrice démocrate et candidate présidentielle, Elizabeth Warren, à nouveau hanté par ses déclarations du passé, doit s'excuser.
Et là, on a un exemple classique de Donald Trump qui identifie la faiblesse d'un adversaire, ou dans ce cas-ci d'une adversaire politique, le maillon faible, et qui le martèle jusqu'à ce que ça vienne à définir la personne. On écoute Donald Trump il y a de cela 2 ans.
Did you ever hear of Pocahontas? Huh? It's Pocahontas, Elizabeth Warren. She was going out. She is probably the senator that's doing just about the least in the United States Senate. She's a total failure. She said she was an Indian. She said because her cheekbones were high, she was an Indian, that she was Native American.
C'est dit de façon folklorique, mais il faut donner raison à Donald Trump.
Ben oui, parce que là, ce qui se passe, c'est que Elizabeth Warren, qui est une sénatrice démocrate du Massachusetts, tout au long de sa carrière, avant même d'être une politicienne, s'est présentée comme étant amérindienne. On le présume pour pouvoir jouir de certains avantages professionnels. Or, elle évidemment, s'est faite ridiculiser, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est une femme blonde aux yeux bleus, s'est faite ridiculiser à profusion par Donald Trump au courant des dernières années.
Et par des représentants des Premières Nations aussi.
Exactement. À un point tel où elle s'est sentie, je te dirais, peut-être pas forcée, mais fortement encouragée à prouver son héritage. Donc, elle est allée commander un test d'ADN qui démontre qu'elle a potentiellement un 1024e, 1 sur 1024 de sang amérindien. Donc, depuis le début de la semaine, elle s'est excusée à la Nation des Cherokees et au cours des dernières heures, s'est carrément excusée pour s'être présentée comme amérindienne lorsqu'elle a appliqué pour le barreau au Texas en 86. Donc, c'est certainement quelque chose qui va rester là pour la hanter.
Oui, c'est une candidate quand même présidentielle.
Exact.
Elle cherche l'investiture démocrate. Merci, Raphaël. À demain.